Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. 7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, Benjamin Griveaux.
Bonjour Benjamin Griveaux.
Bonjour.
Merci beaucoup à vous d'être dans ce studio d'RTL ce matin. Selon les échos, le gouvernement réfléchit à un élargissement de la baisse de charges patronales jusqu'à 3 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 2,5 fois maximum. C'est un nouveau coup de pouce nécessaire ?
Alors, ce sujet-là a été évoqué dès 2012 par Louis Gallois dans le rapport qu'il avait remis sur la question de la compétitivité de nos entreprises et en particulier de notre industrie. Et c'est quelqu'un qui connaît bien l'industrie, Louis Gallois. C'est un sujet important parce qu'il faut que la France puisse, et nos entreprises, et notre industrie en particulier, rester compétitive vis-à-vis de nos concurrents européens, mais également à l'international. C'est une piste qui est étudiée, mais que les choses soient très claires.
Pourquoi est-ce que ça améliore notre compétitivité ?
Parce que la compétitivité prix de notre industrie sur les salaires plus élevés, sur les bas salaires, grâce aux mesures qui ont été prises par le gouvernement et qui seront mises en œuvre dès l'année prochaine, nous aurons une compétitivité qui sera meilleure vraisemblablement, y compris que celle de nos voisins allemands. Mais on a aussi une industrie avec des salaires plus élevés, donc peut se poser cette question.
En revanche, il faut plus de qualification pour être plus compétitif.
Il y a l'autre obligation qui est celle de la crédibilité financière, de la signature financière de la France. Et c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis de nos partenaires européens de ne pas dégrader structurellement nos comptes publics. Il en va de la crédibilité française. Et donc, c'est dans cet équilibre entre à la fois une compétitivité de nos entreprises meilleure, mais également le respect budgétaire de nos engagements européens que nous allons devoir arbitrer.
Mais donc vous voulez souligner que ça coûte cher, ce ticket supplémentaire, si je puis dire, ce coup de pouce sur les baisses de charges, ça coûterait 3 milliards sur l'année 2019. Mm-hmm. De toute façon, pas avant 2019, c'est un chantier que vous envisagez pour
2018. L'affaire est entendue,
donc ce serait dans le budget prochain. Pour 2019, vous y êtes favorable en tant que secrétaire d'État à Bercy ?
Et moi, tout
vous
ce qui va
c'est nécessaire
en faveur,
pour l'industrie française,
tout ce qui permet à notre industrie de progresser, j'y suis favorable, mais il n'y a pas que la compétitivité prix, il y a aussi la compétitivité hors prix, à savoir l'innovation, la transformation de notre appareil productif, la transformation de notre industrie vers ce qu'on appelle une industrie 4.0, comment on va numériser, comment on va internationaliser notamment nos PME pour les aider à grandir, pour aller à l'export et pour avoir, en Allemagne il y a 12 000 entreprises de taille intermédiaire, en France il y en a 4 000. Notre objectif, c'est de constituer un tissu industriel français solide qui permette à l'entreprise d'aller à l'étranger, de gagner des parts de marché et d'être compétitif.
D'après ce que vous savez, l'arbitrage sera rendu à quelle échéance sur ce dossier ?
À ce stade, il n'y a pas de date.
Il n'y a pas, contrairement à ce que peuvent dire nos confrères, une décision qui sera annoncée dès aujourd'hui. Ce ne sera pas aujourd'hui. Le gouvernement et Emmanuel Macron prend son temps.
C'est préférable sur des sujets aussi structurants.
Et aussi coûteux pour les finances publiques, on le rappelle, rien que pour l'année 2019, 3 milliards d'euros. Dans l'actualité aussi ce matin, l'hypothèse de la fin d'Angela Merkel en Allemagne, les négociations pour former un gouvernement de coalition ont échoué cette nuit. De nouvelles élections ne sont pas impossibles, c'est une hypothèse qui est sur la table, c'est une mauvaise nouvelle.
Écoutez, d'abord, il y a une tradition de constitution de coalition en Allemagne qui est différente de la tradition politique que nous avons
ça,
en France. Donc, on va voir.
On le voit à l'œuvre, mais là, ça n'a pas l'air d'avancer positivement.
Je ne vais pas faire le commentateur de la vie politique allemande. Il est souhaitable qu'une coalition puisse être trouvée. Est-ce que de nouveaux éléments permettant de poursuivre les discussions seront mis sur la table dans les jours qui viennent ? Je n'en sais rien. Mais c'est souhaitable et d'avoir. Ainsi, une coalition constituée avant la fin de l'année.
Ça, c'est un discours que vous auriez pu tenir absolument mot pour mot juste après les élections qui ont permis à Angela Merkel d'arriver en tête, mais avec la nécessité de trouver une coalition. Il se passe quelque chose de plus grave. Elle a échoué cette nuit. Emmanuel Macron souhaite réformer l'Union européenne en profondeur. Est-ce que ça ne risque pas de freiner ses ambitions européennes ? Est-ce qu'il n'est pas là l'enjeu pour nous ?
Écoutez, Emmanuel Macron a... Évidemment, on a une relation particulière avec l'Allemagne. On a ce couple franco-allemand dont je crois que...
Indispensable pour faire avancer l'Europe.
C'est l'un des moteurs de l'Europe, mais pas uniquement. Et c'est aussi le sens du discours qu'Emmanuel Macron a donné à la Sorbonne, du discours qu'il a donné à Athènes, à savoir que si nous voulions relancer l'Europe, ça ne pouvait se faire uniquement que dans un tête-à-tête avec les Allemands, mais de manière coordonnée et avec l'ensemble des
Alors vous répondez pas à ma
grands
question.
Pays européens.
Est-ce que si l'hypothèse la plus... pessimiste se confirmait dans les heures qui viennent, ce ne serait pas tout de même une préoccupation majeure pour Emmanuel Macron ?
C'est évidemment une préoccupation. C'est un partenaire important pour la France, mais moi, je suis un optimiste, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et je suis certain que des éléments nouveaux peuvent permettre de constituer une coalition autour d'Angela Merkel.
On le verra. Verre à moitié plein aussi pour la décision attendue aujourd'hui concernant l'autorité bancaire. On rappelle qu'elle est à Londres. À cause du Brexit, elle doit déménager. C'est une grande agence européenne. Mm-hmm. L'enjeu, ce n'est pas tellement l'emploi, Benjamin Griveaux.
Non,
c'est plutôt l'influence de la France sur...
L'agence bancaire, l'autorité bancaire européenne est à Londres. Oui. Dans le cadre du Brexit, elle va donc être relocalisée en Europe continentale. Il y a différents pays qui se sont portés candidats pour accueillir...
Luxembourg, Vienne, Dublin, Prague, Bruxelles, Francfort et Paris.
Et Paris. Il y a quelques mois, nous n'avions quasiment aucune chance. Je dirais qu'on a
outsider.
Aujourd'hui une chance sur deux,
ouais.
Ce qui est donc marque un progrès.
Oui.
Mais cet élément, alors évidemment, il y a les 200 personnes avec leur famille qui seraient amenées à franchir la Manche, mais ça n'est pas le sujet de l'emploi. C'est le sujet du rééquilibrage en Europe continentale, des outils bancaires et financiers. Il y a la Banque Centrale Européenne à Francfort. Mmh. Je trouverais utile d'avoir un rééquilibrage avec l'accueil à Paris de cette autorité bancaire européenne. Et je veux dire aussi par là que la France, par les réformes que nous avons engagées et par la transformation que nous avons engagée, est en train de retrouver l'attractivité financière, et notamment la place de Paris. On nous avait dit il y a quelques semaines et quelques mois « Ah, mais vous savez, tout ira à Francfort ou à Luxembourg dans le cadre du Brexit ». L'assureur Chubb, qui est l'un des plus grands assureurs américains, installe son siège européen avec ses 300 salariés à Paris. Bank of America, Merrill Lynch, qui n'est pas une petite banque.
Vous n'allez pas refaire la plaidoirie ici, puisque de toute façon, la campagne que vous avez menée, elle est terminée.
Madame Artichou, ce n'est pas une plaidoirie. On voit toujours le verre à moitié vide. Et donc, permettez-moi aussi de marquer le verre à moitié plein. Nous accueillons 1300 traders de Bank of America, Merrill Lynch à Paris, potentiellement 1000 à terme. Goldman Sachs a donné de bons signaux la semaine dernière. Et donc, ça veut dire quoi? Que concrètement, quand on travaille, le travail paye et qu'il faut
et
le faire calmement, silencieusement, mais efficacement.
Et on saura ce soir si Paris a réussi à tailler des croupières à Francfort, puisque c'est un des enjeux. On verra ça ce soir. Benjamin Griveaux, pourquoi, aux yeux d'Emmanuel Macron, vous n'aviez pas les qualités pour diriger le Parti En Marche ?
Écoutez, Christophe Castaner, moi je suis certain, lui, a toutes les qualités pour diriger le parti. Le sujet était assez simple. Il fallait un marcheur de la première heure, sans doute quelqu'un qui avait une expérience d'élu local et qui avait cette expérience d'élu local en dehors de Paris.
C'est pas vous.
Ben non, moi je suis député de Paris,
vous étiez trop parisien
élu
pour
depuis
le
mois de juin. Ça, je ne sais pas si j'étais trop parisien. J'ai vécu la moitié de ma vie en Bourgogne, l'autre moitié à Paris.
Donc c'est
suis
pas
donc
ça,
d'adoption
c'est pas
parisienne,
ça qui a fait
la différence. Je n'en sais rien. Mais ce dont je suis certain, c'est que Christophe Castaner, par son parcours, et notamment, et je crois que c'est un des éléments importants, l'élection régionale de 2015, lorsqu'il se retire au second tour de l'élection régionale pour faire battre le Front National. Moi, je n'oublie pas que Marine Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle, que pour la deuxième fois en 15 ans, le Front National était présent au second tour de l'élection présidentielle et que c'est l'un des enjeux, de raccrocher cette France.
L'éloge de Christophe Castaner,
si je peux terminer, Elisabeth Martichoux, de raccrocher cette France dite des périphéries qui se sent mise à l'écart de la mondialisation, c'est important et je crois que Christophe Castaner incarne aussi et qu'il parle à cette France.
Alors, Christophe Castaner qui attend de savoir si Emmanuel Macron le maintient au gouvernement ou pas, il ne sera plus porte-parole, mais il souhaiterait rester ministre, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Le président n'a pas tranché, il hésite ?
Écoutez, vous lui poserez la question.
Mais s'il ne l'a pas encore dit, c'est qu'à votre avis, son opinion, sa conviction n'est pas encore formée ?
Je ne fais pas de conjecture ni de commentaire.
Pourquoi ne pas annoncer s'il a décidé ?
Ça n'est pas mon rôle. Ouais. Ça n'est pas mon rôle. Et donc,
ça vous
je ne ferai pas de commentaires sur ce sujet.
Est-ce que ça vous intéresse?
Je vous renvoie
à
l'article 8 de la Constitution qui, jusqu'à dernière nouvelle, n'a pas changé, à savoir que c'est le président de la République qui nomme sur proposition du Premier ministre le gouvernement.
Est-ce que ça vous intéresserait?
Je ne vous répondrai pas.
Est-ce que votre conviction, c'est qu'il est compatible qu'il soit à la fois le chef du parti qu'a créé Emmanuel Macron et membre du gouvernement?
Le délégué général dans une direction collégiale du mouvement qui a été créé par Emmanuel Emmanuel Macron. Je me permets de mettre les bons mots sur les fonctions qu'occupe Christophe Castaner. À mon avis, ça n'est pas incompatible. Ça n'est pas incompatible de pouvoir mener de front le travail avec le Parlement. C'est un travail, au fond, d'ingénierie gouvernementale important et d'ingénierie parlementaire.
Oui, les adhérents en marche sont quand même du mouvement. Un peu déstabilisés. On n'a pas rencontré beaucoup à Lyon qui disaient « Formidable, il faut qu'il reste au gouvernement ». Ils sont plutôt enclins à se dire qu'ils soient à plein temps délégués généraux.
Ce que je vois ne me parle pas de ces sujets-là et les Français que je croise ne me parlent pas tous les matins de savoir s'il faut qu'ils restent au gouvernement ou pas. Ils me demandent ce qu'on fait pour l'emploi, ils me demandent ce qu'on fait pour l'éducation, ils me demandent ce qu'on fait pour le logement. Et assez peu ce qui va se passer dans les 48 ou 72 heures qui viennent.
François Fillon a arrêté la politique, il l'abandonne. Il incarnait quoi ?
Il incarnait une droite conservatrice. Et la campagne qu'il a menée a montré que cette droite n'était pas majoritaire dans le pays ou qu'il n'était pas celui qui était capable de réunifier l'ensemble des familles de la droite. Il y a en France une droite sociale, une droite européenne, une droite libérale dont je crois que François Fillon n'était pas l'incarnation.
François Fillon, qui était il y a un an donné président, ça rend humble. Merci beaucoup, merci Benjamin Griveaux, d'avoir été avec nous dans ce studio. Bonne journée.
Après les infos publiées par les Échos sur de nouvelles baisses des charges, Benjamin Griveaux nous confirme que son objectif est bien de constituer un tissu industriel avec l'équipe gouvernementale solide pour affronter la concurrence internationale. Benjamin Griveaux qui dit ne pas être inquiet par ailleurs de la situation politique en Allemagne. L'entretien est à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr. Comme chaque jour, merci à tous les deux.